Anne Frank, écrire contre l'oubli.
Le podcast, réalisé par des terminales de la spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques du lycée Saint-Charles.
Nous l'avons conçu suite à la lecture du livre de Lola Lafont, « Quand tu écouteras cette chanson », publié en 2022 aux éditions Stock dans la collection Manu au musée.
Ce livre s'inscrit dans la lignée d'ouvrages témoignant de l'expérience d'auteurs ayant passé une nuit dans un lieu de mémoire. Ce podcast rassemble nos ressentis et réflexions à la lecture de ce récit aux accents autobiographiques.
Nous avons décidé de rendre justice à Anne Frank en faisant une biographie de l'auteur sensible à l'antisémitisme, en s'intéressant à l'histoire ainsi qu'à la mémoire de la Shoah, mais aussi en mettant en lumière les points de vue des citoyens sur le sujet.
Pour moi, elle représente une jeune fille pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un symbole.
Courageuse.
C'est une femme courageuse.
Très courageuse, positive. Elle n'a jamais baissé les bras, quoi, je veux dire.
Je pense qu'elle est le symbole de l'Holocauste.
I would first introduce her.
Premièrement, je l'introduirai par son journal, puis je l'expliquerai comme le résultat de la guerre et comment la guerre peut détruire la vie d'une personne lambda. Je pense que le but d'un journal et que le but d'Anne Frank était d'écrire un journal intime, mais il était tellement réaliste qu'il est devenu un grand
phénomène.
Oui, pour les personnes tout autour du monde.
Une jeune fille qui essayait de faire sens de ce qui se passait sans vraiment trop comprendre et qui nous a laissé un témoignage très riche du point de vue d'une enfant adolescente. Où je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte de l'impact que ça aurait plus tard. Et donc c'est pour moi un témoignage très riche, historique.
Là, c'est vraiment plus une adolescente qui a posé des mots sur un journal parce que de base, ce n'était pas destiné à être un livre, c'était un journal intime. On ressent plus... que c'est vraiment, ça vient d'elle et c'est vraiment ses mots, du coup.
Et elle écrivait ce qu'elle pensait. Auteur, comment... On ne peut pas dire que c'est une écrivaine. Elle est morte jeune. Hein. Moi, je suis née en 41. Et toi? 38. Mais moi, j'étais petite, hein, oui. 41. Donc, en 45. Tout ce que je me rappelle, c'est que... Je me rappelle avoir entendu la sirène et que mes parents m'amenaient dans la cave.
Ouais, c'est ça.
Une ou deux fois. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Je ne peux pas dire que j'ai souffert. Moi, je mon ami, là... Suzanne, elle se rappelle.
La peur,
en
surtout.
36.
On a vu beaucoup de peur.
En 35.
Mais ça fait très peur, la guerre, parce qu'on entend une alerte et vous voyez tous les avions passer. Mmh. Et vous, comme idiots qu'on était, on allait se mettre à l'abri dans les caves. Ce qui fait que quand l'immeuble est tombé, eh ben on était en dessous. C'était abominable. Je vous souhaite, les filles, de ne jamais connaître la guerre.
S'habitue-t-on à être en danger? La peur est-elle un envahissement brutal, semblable à un courant d'arrachement, cette force qui entraîne au large contre laquelle on ne peut lutter, ou la peur se dilue-t-elle dans les jours qui passent, et on finit par s'y faire à la peur? Les angoisses s'accumulent, elles résonnent. L'angoisse de se trahir, de faire frémir d'un geste trop vif les tissus opaques qu'Anne Frank et son père clouent aux fenêtres le jour de leur arrivée. L'angoisse de tomber malade, de laisser échapper un éternuement, une quinte de toux. De ne pas pouvoir être soignés. Leurs cœurs se soulèvent au moindre bruit inhabituel, comme ce jour où les Francs entendent des cambrioleurs fracturer la porte des bureaux à l'étage en dessous. Il y a la terreur de mourir brûlé vif, ces nuits où les bombes s'écrasent tout près de l'annexe. La terreur de mourir enseveli sous les décombres. Il leur est impossible de rejoindre un abri. Il y a la crainte de ne pas tenir le coup, enfermé à 8, sans intimité, aucune. La peur de perdre la raison et l'espoir, mais quel espoir? La peur aussi, parfois, d'être trahi par l'un de leurs employés et protecteurs. La peur, la terreur, la crainte, l'angoisse de savoir ce qui adviendrait s'ils étaient découverts. Ce qui adviendrait quand ils seront découverts.
Être juive est un choix dont j'ai imaginé que je disposais d'une façon lâche et naïve. Dès l'enfance, j'ai été témoin de phrases antisémites. Mais elles ne m'étaient pas directement adressées, Ceux qui les proféraient se sentaient en sécurité avec moi. Ils ne pensaient pas que j'étais juive.
Cette citation est un exemple de la façon dont Lola Lafont a été confrontée à l'antisémitisme dès son plus jeune âge et comment cela a influencé sa compréhension de sa propre identité en tant que juive. Le livre de Lola Lafont est donc une exploration de son propre parcours de vie, mais aussi une réflexion plus large sur les thèmes de l'identité et de la culture populaire.
Lola Lafont est une écrivaine et musicienne d'origine franco-russe polonaise. Elle a étudié la littérature à l'université et a commencé à écrire dans les années 2000. Elle est devenue une voix importante de la littérature française contemporaine. Ses livres explorent souvent des thèmes complexes tels que l'identité et la famille. Son dernier roman, Quand tu écouteras cette chanson, a été publié en 2022, soit un an après son immersion au sein du musée Anne Frank, situé à Amsterdam. En effet, dans son livre, elle raconte sa nuit du 18 août 2021 dans l'annexe où la famille Frank a vécu clandestinement pendant plus de 2 ans.
Cette expérience lui a permis de redécouvrir Anne Frank, mais aussi de réfléchir sur sa vie personnelle qu'elle décide de partager à travers ce roman. Au cours de notre lecture, on s'aperçoit que Lola Lafont établit un lien assez intimiste entre elle et la jeune fille. Cette proximité s'est tissée au travers de leurs nombreuses similitudes, telles que le fait qu'elles soient toutes les deux des femmes juives qui partagent le même amour pour l'écriture.
Écoutons maintenant Lola Lafont.
C'est-à-dire que ma famille a majoritairement péri dans la Shoah. Je savais évidemment que je savais ça, mais il y avait tellement d'autres choses. Il y avait cette médaille Anne Frank que ma grand-mère m'a offert quand j'avais 13-14 ans en me disant de ne jamais l'oublier.
La mémoire est un lieu dans lequel se succèdent des portes à entrouvrir ou à ignorer. La mémoire, écrit Louise Bourgeois, ne vaut rien si on la sollicite. Il faut attendre qu'elle nous assaille. Avant de rentrer dans la nuit de ce mois d'août 2021, je ne sais rien. Sauf ceci. Les fantômes, au contraire du mythe qui voudrait qu'ils nous hantent sans pitié, se tiennent sages. Ils nous espèrent. Ils ont tout leur temps, celui que nous n'avons pas. Ils attendent qu'on accepte d'être dérouté, que nos paupières se dessillent et qu'on devine, au travers du temps, leurs ombres patientes. Alors, on pourra faire place à ceux qu'on dit avoir perdus. On les retrouve.
Avant même sa sortie, le journal d'Anne Frank a été confronté à la censure. Tel ou tel pays a imposé avant sa publication la suppression d'un ou plusieurs passages. Par exemple, l'Allemagne a choisi d'enlever les passages faisant référence à l'antisémitisme des nazis, ou encore une maison d'édition néerlandaise a exigé le retrait des passages à caractère sexuel. Cette réappropriation va se poursuivre avec celle qui aura lieu par la suite dans les pièces de théâtre et dans les films. Certains passages sont jugés trop juifs par des producteurs qui décident alors de les changer. Lola Lafont écrit « Ce paragraphe, par exemple, qu'Anne Frank écrit le 11 avril 1944, on ne peut pas le conserver. Nous sommes des juifs enchaînés. Qui nous a imposé cela? Qui a fait de nous, les juifs, une exception parmi tous les peuples? Qui nous a fait tant souffrir jusqu'à présent? Canin en est certain. Sans ce plaidoyer spécifique, gênant, la pièce pourrait déployer ses ailes à l'infini. On le supprimera donc et on le remplacera par ceci. Nous ne sommes pas les seuls à avoir enduré la souffrance. Il y a toujours eu des peuples opprimés. » Cet extrait traduit la manipulation du journal au niveau international, puisqu'il sera diffusé dans le monde. Ses producteurs, et bien d'autres, ont falsifié l'écrit d'Anne Frank, mais ont également passé sous silence le vrai sens du livre, celui que son écrivaine a voulu lui donner. Dans ses productions cinématographiques, le journal est vidé de son fond. Les réalisateurs décident d'en faire une romance. Voici un extrait. Enfin, l'idylle entre Anne et Peter passe au premier plan de la narration, comme dans toute comédie familiale à succès. La réappropriation n'est pas seulement celle du journal, mais aussi celle d'Anne Frank elle-même. Lola Lafont l'exprime ainsi. À qui appartient Anne Frank? À son père qui, admis à la lecture du journal, qu'il ne connaissait pas vraiment sa fille? À Lévin, submergé par le désir de faire entendre la voix de la jeune fille au point de parler plus fort qu'elle? Au producteur de la pièce de théâtre, qui remplacèrent sa voix par une autre, moins triste et plus universelle, chacun serait susceptible de s'accaparer son image. Certains, en modifiant son journal, ont réinventé l'histoire et l'identité d'Anne Frank. Elle n'est plus l'écrivaine qui écrit son histoire de jeune fille juive cachée avec sa famille pour échapper aux nazis et est dans le but d'être lue. Mais elle devient une petite fille qui tient simplement un journal intime. Si nous sommes tous Anne Frank, il n'y a plus d'Anne Frank. Cette phrase de l'autrice révèle une nouvelle fois la réappropriation de la figure d'Anne Frank, l'invisibilisant et la passant sous silence.
Lors de sa visite au musée Anne Frank à Amsterdam, la narratrice prend conscience du silence qui entoure les événements de la Seconde Guerre mondiale. Au travers du livre, on a l'impression que Lola Lafont se rend compte que la manière dont l'histoire est présentée peut contribuer à perpétuer ce silence et cette incompréhension. En poursuivant la lecture du livre, on se rend compte que le silence a une place prépondérante durant la visite. On ressent ce sentiment de confrontation au silence et par la suite, c'est comme si on se devait d'être silencieux nous aussi. On distingue alors trois types de silence. Le silence de la mort, le silence en signe de respect envers ce qu'il s'est passé, le silence de la clandestinité. À travers ses écrits, on ressent ce silence à la fois lourd et nécessaire, ce silence qui traduit tout, toute cette souffrance subie. Je vais alors vous partager un extrait du livre. Nous chuchotons. C'est drôle, non? Comme si nous craignions de déranger quelqu'un. Le son des vidéos dans la salle suivante est désactivé. Deux écrans projettent en boucle des documentaires. Deux visages cadrés en plan moyen parlent sans un bruit. Sous-titré en anglais.
Les chanteurs qui reprennent la chanson d'un autre lui rendent hommage. Mais, aussi, ils caressent l'espoir de faire mieux que l'original. Nous nous approchons du micro, persuadés que notre voix sera plus juste, que nous interpréterons notre existence autrement que celles et ceux qui nous ont précédés. Hélène Epstein, dans son essai « Le traumatisme en héritage », a rencontré les enfants et les petits-enfants de survivants de la Shoah. Des enfants à qui leurs parents n'ont rien raconté. Des enfants pourtant hantés par un passé qui n'est pas le leur. L'extrait que je viens de lire me fait beaucoup penser au silence et la place qu'il occupe dans ces familles. La plupart des familles, ayant subi ce genre de traumatisme dans le passé, ont connu une telle douleur et honte liée à ces violences que le seul remède pour guérir de cette plaie, agrandie par les années de persécution et de discrimination, est le silence. Pour ces familles, le silence devient même un pansement qui empêcherait une hémorragie. Une hémorragie de tous les souvenirs qui avaient jusque-là réussi à rester en tant qu'éléments du passé gardés par ce silence. La transmission de l'histoire au sein des familles survivantes devient alors complexe. Les familles préfèrent rester dans le confort qu'apporte le silence, puisqu'il est trop difficile pour elles d'évoquer ces traumatismes, à la fois psychologiques et physiques. Mais d'un autre côté, il est important de se souvenir de l'histoire qui les a construites, et de transmettre la mémoire des victimes pour éviter que les tragédies du passé ne se répètent à l'avenir. Les familles juives ont un rôle essentiel à jouer dans la préservation de la mémoire de la Shoah et dans la lutte contre l'oubli. Ainsi, cela peut permettre de rendre hommage à leur courage et à leur résilience. L'histoire peut être alors une source de fierté, mais aussi de douleur.
Mémoire, négation et oubli. De la Shoah au génocide arménien, du passé colonial à la folie des Khmers rouges. Tuer, exterminer, anéantir. Telles sont les pratiques ordinaires de l'être humain lorsqu'il est saisi par le démon du racisme, de l'antisémitisme, de la haine de l'autre. Est-ce l'unique leçon de l'histoire? Non. Car depuis les procès de Nuremberg en 1945, l'opinion publique réclame la punition des coupables. À travers son ouvrage « Quand tu écouteras cette chanson », Lola Lafont nous livre une histoire vécue par un seul peuple, mais tragiquement comprise de tous, à la manière d'une histoire qui se répète. Une histoire finalement applicable à tous les peuples. Une histoire universelle. Ainsi, l'œuvre rappelle notre condition humaine et invite à se remémorer les événements tragiques de notre histoire. Et ce, malgré le fait que cela ait un rapport direct ou non avec le sujet principal de l'œuvre. De ce fait, Lola Lafont nous rappelle que ce qui est arrivé peut encore arriver. Et c'est en gardant en tête cela que l'on peut éviter d'en arriver à une situation aussi horrible que le génocide. Dans la suite du podcast, les différentes interventions seront ponctuées par des citations de cet ouvrage ainsi que d'un montage d'archives de l'INA.
Les réfugiés commencent à oser en parler, comme cet homme, l'un des rares opposants au régime en place, à avoir pu sauver sa peau.
Ce n'est pas un massacre ethnique, c'est une opération politique. Je dois vous dire que si on m'attrapait, même aujourd'hui, on me tuerait.
Alors que vous êtes...
Je suis Hutu.
Hutu, comme cette femme, l'ancien Premier ministre, massacré dès les premières heures par les extrémistes de sa propre ethnie. Extrémistes qui ne voulaient pas partager le pouvoir avec les Tutsis. Les démocrates Hutus ont donc rejoint, dans la mort et dans l'exode, les Tutsis persécutés.
Un véritable cauchemar, mille fois répété selon le même scénario. Les hommes valides, incorporés dans l'armée, avaient été désarmés dès le mois de février, se voyant ainsi privés de tout moyen de résistance. Tous les autres Arméniens capables, selon l'expression utilisée, de porter les armes, c'est-à-dire ceux âgés de 15 à 70 ans, furent conduits en dehors des villes. Dès la première vallée isolée, les gendarmes, aidés par les Turcs, les massacraient. À coups de sabre, à coups de couteau, à coups de fusil.
Nous avons perdu trois enfants et mon mari était perdu aussi.
C'est une blessure vieille de 40 ans, encore douloureuse. Entre 1975 et 1979, 2 millions de Cambodgiens sont morts. Un cinquième de la population exterminée, victime de la dictature Khmer Rouge.
Génocide namibien, 1904. Génocide arménien, 1915. Génocide tsigane, 1935. Génocide juif, 1942. Génocide cambodgien, 1975. Génocide rwandais, 1994. Génocide bosniaque, 1995. Et encore aujourd'hui, les Ouïghours sont exterminés.
Nos arbres généalogiques ont été arrachés, brûlés, calcinés. Le récit s'est interrompu. Les mots se sont révélés impuissants, se sont éclipsés de ces familles-là, de ma famille. L'histoire qu'on ne dit pas tourne en rond, jamais ponctuée, jamais achevée. Elles sont en lambeaux, ces lignes hantées de trop de disparus, dont on ne sait même pas comment ils ont péri. Gazés, brûlés ou jetés, nus, dans un charnier, privés à jamais de sépulture. On ne pourra pas leur rendre hommage. On ne pourra pas clore ce chapitre. Dans ces familles, on conjuguera tout au plus jamais. Il y a ces pays où plus jamais on ne reviendra. La Pologne, la Russie, des terres de persécution. Il y a les langues que plus jamais on ne parlera. Elles ne connaissent que les extrêmes, ces familles. L'exil ou la mort, l'héroïsme ou la mort. Naître après, c'est vivre en dette perpétuelle. Chaque enfant sera un miracle. Il aura le devoir d'être survivant.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr.
Dans la belle et très personnelle conclusion de son ouvrage, Lola Lafont fait mention d'un souvenir d'enfance. Vivant à Bucarest, elle rencontre le fils d'un employé de l'ambassade du Cambodge. Ce jeune garçon doit bientôt rentrer au pays où son père, représentant l'ancien régime, est rappelé, sur demande de Pol Pot, le dictateur local qui vient de prendre le pouvoir. Lorsqu'elle avait 8 ans, Lola Lafont raconte avoir échangé avec ce jeune garçon pendant plus d'une semaine et elle évoque ce poète de Mihai Eminescu, éminent poète roumain. Un demain à tes jours s'ajoute, un hier à ta vie se soustrait, mais cependant, devant toi-même, c'est l'aujourd'hui seul qui paraît. Ces quelques vers résument bien les quelques jours passés en compagnie de ce jeune homme. Elle, gamine de 8 ans qui ne pense pas au lendemain, se retrouve avec un garçon se préparant probablement à mourir. Et, dans ce moment-là, seul le présent compte. Ce jeune homme revient la voir, elle et ses amis. Il s'amuse beaucoup en leur compagnie. Il retombe en enfance. Le jeune homme, lui, s'échappe momentanément de sa vie de presque adulte pour redevenir un môme. Mais tôt ou tard, il devra partir à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et peut-être ne sait-il pas encore qu'une mort certaine l'attend. Alors, il préfère jouer ici et passer le temps qu'il lui reste à s'amuser, plutôt qu'à essayer de comprendre ce qu'il se passe vraiment. Lola Lafon s'est attachée à cet homme mystérieux. Il n'est resté qu'une dizaine de jours, mais ce fut assez pour apprendre à le connaître et à se lier d'amitié avec lui. Leurs derniers après-midi ensemble sont passés sous le coup de la tristesse de l'adieu. Il savait qu'il ne se reverrait pas, mais le supplie quand même de revenir pour les revoir. La naïveté des enfants ne fera que rendre cet adieu plus brutal. Il est parti. Et bientôt, il partira pour un autre monde. Le jeune homme écrira bientôt une lettre à la Lola de 8 ans, dans laquelle il lui raconte sa vie, ce qu'il se passe dans son univers, maintenant si loin d'elle. Le Dor le touche lui aussi. Il a emporté avec lui ce sentiment exclusivement roumain, mêlant nostalgie, mélancolie, douleur et joie, et surtout, le souhait irrépressible et persistant de revoir quelqu'un qui lui est cher. La chose la plus importante pour ce garçon retenu en Roumanie fut des petites filles qui l'ont écouté et lui ont donné le sourire pendant cette période difficile de sa vie. Sa dernière lettre, postée à Pékin, fut sans doute la dernière de sa vie. Il fut victime du massacre perpétré par les Khmers Rouges, le groupe au pouvoir au Cambodge, ayant comme leader Pol Pot. Charles Chea avait 15 ans. Il était lycéen, il parlait trois langues. Il portait des lunettes, ses parents étaient diplomates, sa mère était chrétienne. Pour les Khmers Rouges, Charles Chea ne fut qu'une tâche à effacer, un cancer à éradiquer, un adolescent à abattre. Je ne connaissais pas les Bee Gees avant de lire ce livre, et la chanson que ce jeune homme, mort plus d'une vingtaine d'années avant que je vienne au monde, m'a vraiment fait ressentir l'état d'esprit dans lequel il devait se trouver. Cette intemporalité m'a beaucoup touché. Dans les années 80, Charles Chea se trouvait dans un train en direction de Pékin. Aujourd'hui, c'est moi et tant d'autres qui connaissent son histoire. Cette fin m'a beaucoup touché, émotionnellement parlant. Je la trouve extrêmement appropriée dans le sens où c'est ce jeune homme, comme le dit si bien Lola Lafon, qui lui a ouvert la porte de la chambre d'Anne Frank. Lui, comme tant d'autres victimes du massacre des Khmers Rouges, bien après les nazis, nous montre que les massacres existent et existeront toujours. C'est grâce aux mémoires que nous faisons de ces erreurs que je suis convaincu que la race humaine pourra aller de l'avant et ainsi espérer éviter de refaire ces atrocités. L'extrait qui va suivre nous montre l'universalité à travers la mémoire des migrants en France.
Comme Otto Frank, mon grand-père a été victime de la foi tragique qu'il avait placé dans un pays d'accueil, persuadé que s'il s'en donnait la peine, il y serait respecté, protégé. Un pays que son père lui avait tellement vanté, celui de la Déclaration des droits de l'homme et de Victor Hugo, la France. Il y arriva autour de 1933. Il n'y fut rien qu'un immigré de peu, rien d'autre qu'un pourchassé, forcé de tout quitter, encore, d'abandonner les rares biens qu'il possédait, de fuir Paris pour se cacher. Vivre en France se transforma en survivre à la France. L'administration française somma les Juifs de porter l'étoile jaune en 1942. Si mon grand-père était fier de raconter qu'il avait immédiatement compris qu'il ne fallait pas l'accepter, jamais il n'évoquait ceux qui avaient voté cette loi anti-juive. Jamais il ne fit mention d'une quelconque responsabilité française. Mes grands-parents ont survécu en faisant comme si la France avait vraiment été une terre d'accueil. Ils ont fait de l'oubli un savoir. Ils ont prêté allégeance à l'amnésie. Le quotidien demeurait pour eux un espace hostile dans lequel ils redoutaient de mal faire, d'être montrés du doigt, d'être traités comme des étrangers. Ils n'ont connu aucune sérénité. Sauf ces dimanches après-midi où ils se retrouvaient avec ces autres qui leur ressemblaient. Leurs amis polonais, russes, roumains, tous membres de la même association juive, laïque et communiste.
Là, le temps de quelques heures, ils quittaient le français comme on se défait d'un habit trop étroit. Ils parlaient yiddish ou hébreu. Pour certains, ils se connaissaient d'avant. Ils venaient du même village russe ou polonais. Ils reprenaient de l'assurance. Ils n'étaient plus ces gens venus d'ailleurs. Ils parlaient avec animation, commentaient la dernière apparition télévisée de Georges Marchais, s'émerveillaient de la culture musicale, théâtrale, de tel ou tel conférencier invité. Ils s'échangeaient des articles de journaux, chantaient, partageaient un thé brûlant ou un verre de vodka, des strudels et des gâteaux au pavot. Le lundi matin, ils redevenaient des étrangers, à l'accent prononcé, choisissaient leurs mots, avec attention, le soin de ceux qui n'ont pas les mots du pays dans lequel ils vivent.
Être français était une tâche de tous les jours, de chaque instant. Leur nuit, elle, échappait à ce devoir par la grâce d'un petit cachet blanc.
Quand tu écouteras cette chanson, de Lola Lafon offre une perspective nouvelle sur les problématiques de la Shoah. La nuit, qu'elle passe seule dans ce musée, permet au lecteur une visualisation concrète de l'annexe qui fut le refuge de la famille d'Anne Frank pendant 2 ans. Ce podcast nous a permis de rendre justice à Anne Frank en tant que véritable auteure, mais aussi jeune femme libre de penser. Ce qui nous a semblé essentiel et l'universalité de la tragédie vécue par Anne Frank. La répétition et les similitudes des génocides nous a frappés et nous rappellent les menaces toujours plus vives et actuelles. Comme nous l'a dit Lola Lafon dans son ouvrage, « Si nous sommes tous Anne Frank, il n'y a plus d'Anne Frank ».
Nous souhaitons maintenant remercier les personnes qui nous ont aidés et permis de réaliser ce podcast. Radio Grenouille, le festival Olé Beaujour, ainsi que M. Rio, notre professeur.